Voilà, maintenant nous avons le plaisir d'écouter Bertrand Ménès, qui est venu de l'Université de Lorraine, qui a un parcours de mathématiques, philosophie, informatique, un peu tout mélangé, donc c'est exactement ce qu'il nous faut, et qui va donc regarder l'expressivité des langages de programmation du point de vue de linguistique.
Merci beaucoup. Bon, ben, je suis très heureux de venir parler ici. Donc, merci pour l'invitation. Ce dont je vais parler, en fait, je vais être à la limite du hors-sujet parce que je n'ai pas parlé de notebook à proprement parler, mais d'une question qui est importante pour les notebooks, qui est l'expressivité du texte informatique. Et la partie dont je vais parler, la partie du code, c'est la partie vraiment code, donc pas la partie littéraire de la programmation littéraire, mais la partie non littéraire, la partie scientifique, technique, et je vais parler de l'intelligibilité de cette partie-là, de la partie incompréhensible du code. Et je vais montrer, j'ai surtout parlé de cette question-là dans le lien avec les langues dont dérivent les langages de programmation. Et alors, savoir dans quelle mesure les langages de programmation dérivent des langues, c'est une des questions que je vais essayer de clarifier un peu. Donc, il existe plusieurs systèmes de codage et il y en a qui sont réputés plus lisibles que d'autres. Je n'ai pas réussi à retirer le petit bout de fenêtre qu'on voit ici au milieu, désolé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un système est plus lisible qu'un autre? Ça, c'est tiré de CNUS, Interpreter Computer Programming. Et ici, on a trois fois la même chose. À gauche, un code qui est écrit dans le langage binaire de la machine X, qui est défini par CNUS. Au milieu, on a un code qui est écrit dans le langage assembleur de cette machine-là. Donc, c'est une machine fictive, pas une vraie machine qui existe dans le monde réel, elle n'existe que sur papier. Et puis, à droite, on a le commentaire, ligne à ligne, qui explique ce qui se passe. Alors, généralement, quand on lit ça, on a plutôt tendance à essayer de comprendre la colonne de droite. Et ensuite, à partir de là, on peut essayer de comprendre. Alors, les geeks commencent par la colonne du milieu, bien sûr. Mais sinon, le geste plus naturel serait de commencer par la colonne de droite, ensuite colonne du milieu, et ensuite, par curiosité, on peut jeter un coup d'œil sur la colonne de gauche. Mais on est bien d'accord que la colonne de gauche n'est pas compréhensible, parce que pour ça, il faudrait savoir ce que signifie 39, ce que signifie 50, qui sont les codes d'instruction. Alors, on peut deviner si on compare à la colonne du milieu. Alors, qu'est-ce qui fait que la colonne du milieu est quand même plus compréhensible que celle de gauche, alors que globalement, il y a une correspondance à peu près univoque entre le langage binaire et le langage assembleur? Une bonne partie du caractère expressif vient du fait que dans le texte du milieu en assembleur, ça ressemble à une langue qu'on connaît, qui est l'anglais. Et ça aide beaucoup à la compréhension. Donc, une des sources de l'expressivité du code, des langages de programmation, c'est la ressemblance avec des langages déjà connus, que ce soit des langues naturelles, comme par exemple l'anglais, dans lequel on baigne, ou bien que ce soit aussi de la notation arithmétique, parce que à droite, on retrouve quelques notations, comme le signe de soustraction, le signe supérieur A, auquel on est habitué depuis l'école primaire. Donc la ressemblance avec des langages qu'on connaît déjà aide beaucoup à l'intelligibilité. Il se trouve que la plupart des langages de programmation s'appuient sur l'anglais. Alors, s'appuient sur l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Je le préciserai encore un peu après. Mais déjà, l'alphabet, alors souvent on parlait tout à l'heure du E accent aigu. Effectivement, donc l'alphabet parfois, donc c'est de A majuscule jusqu'à Z minuscule, mais on n'a pas toujours les accents. Donc, par exemple, en langage C, sauf si ça a changé, mais je ne suis pas sûr, on ne pouvait pas définir de variables dans le nombre de variables qui contiennent un caractère accentué. Il y a le lexique, tous les mots-clés du langage comme if, while, etc. Une partie qui est la morphologie compositionnelle. Morphologie compositionnelle, c'est-à-dire comment former un mot à partir d'autres mots. Donc, par exemple, on pourrait dire bus.station, et il se trouve qu'en anglais, justement, ça se dit bus station. Alors qu'en français, on dirait station de bus. On met les mots dans l'autre sens et puis on met une préposition entre les deux. Mais il se trouve que pour la programmation orientée objet, c'est peut-être un hasard, peut-être que ça n'en est pas un, mais il se trouve qu'en tout cas, la morphologie compositionnelle est identique à celle de l'anglais. Un autre exemple de ce qui pourrait être éventuellement anglais dans la programmation, c'est certains éléments de syntaxe. Donc, par exemple, même des choses qui nous paraissent bêtes, quand on dit if, ensuite une condition, et puis ensuite la commande ou le bloc de commande qui est exécuté, il se trouve que c'est la même syntaxe qu'en anglais, mais c'est pas le cas dans toutes les langues. Alors, pourquoi l'anglais en particulier? Deux hypothèses. La première, ce serait une hypothèse qui rentrerait dans les caractéristiques intrinsèques de l'anglais, en disant l'anglais est une langue très analytique, parce que l'anglais, c'est de, pour dire rapidement, c'est de l'anglais francisé, c'est de l'allemand francisé, c'est une langue germanique, qui ensuite, pour des raisons sociologiques, comme l'élite aristocratique parlait un dialecte français, le normand, il se trouve que par imitation, il y a eu la langue qui s'est imprégnée, la langue anglaise qui s'est dégermanisée, perte de presque toutes les déclinaisons, perte de presque toutes les conjugaisons, usage de beaucoup plus de prépositions, etc. C'est ce qui fait que la langue anglaise s'est autant rapprochée des structures de la langue française. Par exemple, à la place du génitif saxon, l'usage du « of », de même qu'il y a le « de » en français. Une hypothèse, ce serait de se dire que l'anglais est une langue qui est très analytique, comme le français, contrairement à l'allemand, par exemple, et que ça tombe bien parce que dans les langages formels, souvent ce qu'on cherche, c'est le caractère analytique. Le caractère analytique, ça veut dire que quand on a des idées différentes, on va les mettre dans des portions de des morphèmes, c'est-à-dire dans des portions de texte différentes. On évite d'avoir un seul bout de texte, un seul mot, par exemple, qui voudrait signifier cinq choses à la fois, et ce qu'on essaye, c'est de séparer. Donc, par exemple, en allemand, le mot Deinem, c'est un mot qui veut dire à la fois qu'on a un pronom possessif, que le possesseur est à la deuxième personne, qu'il est singulier, que la chose qui est possédée est un masculin ou un neutre, singulier, et que c'est ce à quoi on attribue quelque chose. Donc on a six informations en un seul mot, alors que si on le dit en anglais, on aurait two, your, donc on aurait deux mots, et dedans, alors tout, ça indique seulement un des traits que vous indiquez, celui de la destination, et your, on sait que c'est donc possesseur de la deuxième personne, on ne sait pas si c'est singulier ou non. Donc là, on a très peu d'informations par mot, une seule ou deux dans cet exemple. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que l'anglais anticipait sur les langages formels où on essaye de bien séparer les idées. Et donc, est-ce que c'est pour ça? C'est ce que pense Peter North. Ou bien, est-ce que c'est tout simplement parce que pour des raisons socio-économiques, l'anglais est dominant et que c'est la langue internationale qui est utilisée partout. Ce qui fait que même quand des Français ou des Néerlandais créent un langage, ils vont reprendre l'anglais. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on utilise souvent l'anglais comme base. Et ça, ça pose des problèmes pédagogiques. Alors, on pourrait calmer un peu là-dessus en se disant, bah, quand on programme, il y a des if et des while, etc., mais on n'a pas tellement l'impression de faire l'anglais non plus. Mais c'est aussi parce qu'on baigne dans l'anglais. Si on regarde ce que donne Java en irlandais, on reconnaît plus du tout le langage qu'on croit connaître. Parce que là, moi qui parle pas irlandais, je ne serais pas capable de dire, alors je pourrais essayer de deviner, mais il ne me saute pas aux yeux de savoir ce qui tient des mots-clés du langage et ce qui tient des noms qui ont été définis par les auteurs de ce bout de code. Donc, dès qu'on passe à une langue que je ne connais pas, je perds tous mes repères dans la lecture de l'anglais. Et donc, la question que je vais poser, c'est dans quelle mesure les langages de programmation dépendent-ils de langues particulières, comme par exemple l'anglais? Alors, on va voir déjà jusqu'à quel point on est dans l'anglais, et ensuite, si c'est si facile que ça d'en sortir. Alors, d'abord, jusqu'à quel point est-ce qu'on est dans l'anglais? Jusqu'à quelle heure, pardon jusqu'à quel point? Alors, quand on aborde l'apprentissage d'une langue, il y a plusieurs étapes, plusieurs points obligés qui sont toujours un peu les mêmes. Donc, il y a d'abord la question de la phonétique, qui est de savoir exactement quels sont les sons que l'on profère. Une autre question qui est celle de la phonologie, qui est de savoir quels sont, dans cette langue particulière, les traits discriminants, les et très oraux discriminants qui sont pertinents. Troisième question, le lexique. Donc là, c'est la liste des mots de la langue, donc on apprend le dictionnaire par cœur. Ensuite, une morphologie. Morphologie, ce sont les formes des mots, c'est l'étude des formes des mots. Donc ça comprend morphologie dérivationnelle, flexionnelle, compositionnelle, etc. Ensuite, la syntaxe, qui est l'étude des règles de la grammaire. La sémantique, qui est l'étude du sens. Et la pragmatique, qui est l'étude de l'usage. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans l'apprentissage d'une langue orale. Pour la partie écrite de la langue, on retrouve à peu près la même chose. Alors déjà, pour la plupart des catégories, ça porte exactement le même nom. Lexique, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique. Et puis ensuite, pour l'étude de la graphie et des graphèmes, là, on a des mots différents, graphétiques et graphématiques. Et alors, dans les langages de programmation, il se trouve que c'est une langue écrite, on retrouve certains traits de la deuxième colonne, colonne langue écrite. Et alors, simplement, à la place de la graphématique, on va parler de l'alphabet. L'alphabet, c'est la liste des caractères qu'on peut utiliser dans un langage déterminé. On a des mots-clés qui constituent le lexique du langage. Ensuite, les formes de mots-clés, alors ça, il faut voir si ça existe tant que ça. La plupart du temps, il n'y en a pas. Il n'y a pas de morphologie, ou presque pas, dans les langages de programmation, mais il n'y a pas de raison de fond à ce qu'il n'y en ait pas. Je vous donnerai des exemples de cas où on en a. Et puis ensuite, syntaxe, sémantique, et puis éventuellement le style de programmation. Le style de programmation, ça peut être toutes les remarques informelles qu'on vous met quand vous faites un PD de demander un devoir, et on vous dit, ton code est correct, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est par les lignes, indente ton code, dans un langage où l'indentation n'aurait pas de signification. Voilà, donc souvent, quand on apprend un langage de programmation, on voit l'alphabet, ensuite la syntaxe, ensuite la sémantique, mais tout ça, c'est une petite partie de l'ensemble de ce qui est pertinent pour décrire un langage de programmation. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quand... donc, si un langage de programmation, si on affirme qu'il dérive, qu'il dépend de l'anglais, jusqu'où est-ce qu'il en dérive pour l'alphabet? Est-ce qu'il en dérive jusqu'au niveau lexique, donc jusqu'au niveau 3 dans le tableau? Est-ce qu'il en dérive aussi jusqu'au niveau 4, morphologie, et niveau 5, syntaxe? Donc jusqu'à quel niveau exactement? Et en fait, ça dépend. Parfois, les langages dépendent seulement pour un tout petit peu et parfois pour beaucoup. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'autres langages qui semblent sortir de l'anglais pour montrer qu'en fait, ils n'en sortent pas toujours tant que ça. Alors ça, un exemple, c'est Irja, ça veut dire rouille en ukrainien, et c'est le langage Rust en ukrainien. Et les mêmes gens, je pense que c'est les mêmes, ont fait ça dans toutes les langues, donc il existe aussi le langage rouille, qui est Rust en français, et puis il existe en chinois, etc., dans plein de langues. Et en fait, si on regarde, alors c'est tentant, parce que on peut avoir l'impression qu'ils ont... que les gens qui ont fait ça ont eu une vraie intelligence de la langue ukrainienne. Alors, on voit par exemple qu'il y a le mot slov, qui veut dire c'est le génitif pluriel de slovan, qui veut dire le mot. Et alors il est utilisé. Alors c'est pas pertinent dans le bout de texte que je vous ai mis là, parce que on trouve quelque part un slov point quelque chose, mais 17.
20.
Oui, voilà. Mais en fait, ici, c'est un verbe. Donc, ce stability, c'est un verbe. Mais ce qui est plus pertinent, c'est quand il l'utilise avec un nom commun derrière. Parce que dans ce cas-là, je vous parlais tout à l'heure de bus station en anglais. Là, c'est comme si on avait of the buses station. Donc, le fait d'utiliser un génitif pluriel est une bonne idée pour faire ça. Parce que quand on a une certaine classe d'objets et qu'on veut parler d'un certain attribut de cette classe d'objets, eh bien, le fait de désigner la classe objet avec un génitif pluriel, donc une appartenance à un groupe, le groupe de toutes les choses de ce type-là, ça, c'est une bonne idée. Sauf que le mot slov, en fait, il est codé en dur au début du code, au début du texte, et il n'y a pas d'autre version, il n'y a pas d'autre déclinaison. Le mot slovo, le mot qui veut dire mot, n'apparaît pas ni au nominatif, accusatif singulier, ni rien. Donc, ça ressemble à l'ukrainien vu de loin, mais en vrai, on n'a pas une des caractéristiques fondamentales de l'ukrainien qui est la déclinaison. Donc, c'est en fait, c'est de l'anglais ukrainisé en surface, mais au fond, la syntaxe n'a absolument pas bougé du fait que on utilise l'alphabet ukrainien et des mots ukrainiens dans ce code-là. Un autre exemple.
On améliore la lisibilité, mais pas la manipulabilité finalement.
C'est que c'est pas, on pense pas différemment le code. C'est, on écrit exactement. C'est une traduction mot à mot. Donc, si tu faisais le même code en anglais, tu aurais exactement un mot égal à un mot et aucune variation de mot ni en anglais ni en ukrainien. Donc, on écrit dans une autre langue, mais on pense pas dans cette langue. Alors, un autre exemple de plurilinguisme apparent, c'est dans Scratch. Alors là, c'est un labyrinthe que j'avais fait avec ma filleule. Et alors, c'est Thésée. Et le Minotaure est au milieu. Thésée, c'est le pingouin. Et dans Scratch, une fois qu'on a écrit un code, alors il y a juste un bug dans ce truc, si vous allez voir, c'est que Thésée peut traverser les murs. Et il lui reste ce petit bug à régler. Et alors là, on peut changer la langue. Donc quand on a écrit le code, donc là nous on l'a écrit en français, et ensuite on peut changer la langue, et là on a anglais, espagnol, espéranto, philippin, etc. On a beaucoup de choix, et c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe quand on change la langue. Donc là j'ai mis quelques exemples, donc anglais, allemand, grec moderne, ukrainien, japonais, chinois, on va simplifier. Et ensuite, on peut comparer ce qui se passe. Donc là, j'ai pris quelques exemples. Donc le clic sur le drapeau. Donc là, on a ce que ça donne. Vous pouvez prendre la langue que vous préférez dans la liste. Pour assigner une valeur à une variable. Pour faire une boucle infinie. Donc un for mais sans condition de sortie. Si, alors, sinon. Et si on compare donc dans tous ces cas-là, qu'est-ce qui change? Alors d'abord, il y a l'alphabet des mots-clés qui change. Je dis bien l'alphabet des mots-clés parce que si par exemple j'avais appelé une variable lapin, ensuite quand je traduis en turc, ça reste lapin. Mais l'alphabet des mots-clés change, donc on a l'alphabet chinois, l'alphabet cyrillique, l'alphabet grec, japonais, latin. Donc d'abord, l'alphabet peut changer. Ensuite, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est que le lexique change. Donc, on a des mots différents. Donc là, si on regarde, par exemple, pour la répétition, on voit que on peut avoir soit les mots répétés indéfiniment, soit wiederholen, fortlaufen, soit forever, soit pour siempre, etc. Il y a panta et tout ça. Mais après, la structure, c'est la même. On voit que le mot change, mais ensuite, à chaque fois, c'est un certain ensemble de mots, et puis ensuite, on met le bloc qui se répète. Donc ça veut dire que du point de vue de la syntaxe, ça change rien. On a les petits mots-clés qui changent, mais la syntaxe profonde du code ne change pas. Parfois, on peut avoir des mini-variations. Donc, par exemple, le si, alors, sinon, if, then, else, si, entonces, sino, et antote, alios, etc. Alors là, on voit qu'en allemand, ils n'ont pas mis le dann, par exemple. Ils disent false, c, b, sonst, sinon, b. Donc, si la condition est réalisée, bloc. Sinon, l'autre bloc. Donc là, ils n'ont pas mis le dan, mais comme il y a des mécanismes de délimitation qui permettent de savoir à quel moment on est sorti de C et à quel moment on entre dans B, ça pose pas de problème qu'il n'y ait pas de mot entre le C et le B en allemand. Voilà, donc parfois, on peut avoir une mini-variation à l'échelle locale d'une instruction. Un autre exemple, alors pour une blague, pour ceux qui connaissent la notation polonaise inversée, c'est que le japonais utilise de la notation polonaise inversée. Vous avez le polonais à la ligne d'après. Et alors, en japonais, il n'y a pas de préposition, il y a des postpositions. Et donc, là, on voit que la syntaxe est quand même différente, puisque l'ordre des éléments de cette structure-là peut changer d'une langue à l'autre. Voilà. Après, on voit que pour l'événement, quand on clique sur le drapeau, on voit qu'on a un peu toutes les combinaisons, ou presque, pas toutes, mais beaucoup de 3D et 4 combinaisons possibles pour désigner cet événement-là. Voilà, donc en fait, aussi bien dans Scratch qu'avant dans IRJA, le Rust en ukrainien, on voit que ça reste superficiel. Que en profondeur, ça se voyait quand je vous montrais les images tout à l'heure. On voit que la tête du programme ne change pas du tout d'une langue à l'autre. C'est toujours exactement la même chose, mais il n'y a pas vraiment d'exotisme à changer de langue dans Scratch. Donc, généralement, les langages ne tirent pas vraiment profit des spécificités de la langue exotique. La langue exotique, ça comprend le français. Et puis, de toute façon, même si la syntaxe change un petit peu, derrière, on ne trouve pas, généralement pas, d'autres façons de penser la programmation. Ça ne fait pas vibrer, il n'y a pas de révolution de pensée quand on regarde ce que c'est dans une autre. Alors, en cherchant comme ça, j'ai trouvé deux cas quand même, que j'ai trouvé piquant, que j'ai trouvé stimulant. Le premier, c'est un langage de programmation en latin qui utilise des déclinaisons. Je vais vous montrer des exemples. Qui utilise des déclinaisons et puis une syntaxe libre. Et puis l'autre exemple dont je parlerai un petit peu plus, c'est le langage Wenyan, langage de programmation en chinois classique. Alors d'abord, ça c'est donc un exemple de, c'est un module de Perl. S'appelle Perligata. Alors ça, c'est un exemple de code qui est fait dans ce langage-là. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples pour mieux comprendre. Là, en comparant Perl, qui est au-dessus, vous voyez la variable last égale la variable next. Et puis ensuite, 6 façons différentes de le dire dans ce module Perl, donc en Perligata, donc en latin. Et alors on peut dire lasto da nextum, lasto nextum da, nextum da lasto, nextum lasto da, toutes les combinaisons, il y a 3 mots, ça fait 6 combinaisons, donc toutes les combinaisons sont possibles. Et pourquoi c'est possible? Parce que pour les mêmes raisons qu'en latin. En latin, c'est une langue qui a une morphologie très riche, il y a beaucoup de déclinaisons, et pas mal de conjugaisons aussi, et donc sur le mot lui-même est marqué sa fonction dans le groupe de mots dans lequel il est. Dans la phrase. Et le fait que chaque mot soit porteur de sa fonction offre une liberté, ça ne la conditionne pas, mais enfin, ça ne la détermine pas, mais ça offre une possibilité que le latin saisit, qui est de se dire on fait n'importe quoi avec l'ordre des mots, ou presque. En latin, on peut mettre les mots presque dans n'importe quel ordre. Dans la poésie, ils s'en donnent à cœur joie, les auteurs latins. Et donc souvent, on peut avoir un mot, un adjectif, et pour aller chercher le nombre qui correspond, on peut très bien aller chercher 4 ou 5 vers plus loin. Mais il y a des marques morphologiques qui vont nous permettre de dire qu'ils vont forcément ensemble. Donc ça se prête à plein de tours stylistiques qui sont... c'est là où la littérature peut exprimer sa richesse. Alors je disais que ça rend possible, mais ça ne détermine pas, parce qu'en allemand, il y a des marques morphologiques très riches aussi, mais la syntaxe allemande est très rigoureuse pour autant. Les Allemands ne font pas les foufous, alors qu'ils pourraient s'autoriser beaucoup plus de folie dans l'ordre des mots de la langue. En russe, en ukrainien, on s'autorise aussi un peu plus de folie que... Voilà, donc c'est ce langage, Perligata, permet vraiment, à mon avis, montre des possibilités qui ne sont jamais ou pas souvent exploitées dans les langages de programmation. Ici, c'est la petite folie de mettre les mots dans n'importe quel ordre, localement. Et alors, l'autre exemple que je vais un peu plus détailler, c'est ce langage de programmation en chinois classique, qui s'appelle Wenyan. Et alors on va voir si ça change vraiment quelque chose ou pas, parce que là je suis d'accord que vu comme ça, on a l'impression que tout change. Mais après, comme tout à l'heure, je vous montrer avec le japonais en Scratch, que les changements parfois sont moins importants qu'ils n'ont l'air vu de loin. Alors, donc est-ce qu'on programme différemment quand on programme en chinois classique? D'abord, quelques mots sur ce que c'est que le chinois classique. Alors, ce langage, d'après ce que j'ai compris, il a été fait par des Chinois fous qui s'ennuyaient pendant le confinement. C'est comme ça qu'on m'a expliqué les choses. Je ne sais pas s'ils sont fous, je ne sais pas si c'était pendant le confinement, mais je pense qu'ils sont chinois. Alors, le Wenyan, cette langue, c'est alors le chinois classique, c'est une langue qui a un peu connu les mêmes usages que le latin en Occident. C'est-à-dire, c'est une langue qui a été parlée à peu près dans cet état-là il y a longtemps, il y a à peu près 2000 ans. Et ensuite, c'est resté comme une langue de culture. Et jusqu'au début du XXe siècle, on écrivait encore des thèses en latin en Occident. Eh bien, pour là, c'est pareil. Jusqu'au début du XXe siècle, il y avait encore une partie importante de la littérature chinoise, la vraie littérature, qui était écrite dans cette langue, donc en chinois classique. Et puis ensuite, un des mouvements de révolution qu'ils ont fait, le 4 mai 1919, etc., ça consistait à dire on va arrêter d'écrire cette langue qu'on ne parle plus, et on va écrire de la littérature dans la langue qu'on parle vraiment, avec des auteurs comme Lu Xun, etc. Donc cette langue, c'est une langue vraiment de culture. C'est la langue modernisée quand même par rapport à Confucius et Lao Tzu, mais c'est celle qui est parlée dans les 9 chapitres du traité classique de mathématiques chinois. Et encore aujourd'hui, dans des contextes formels, dans des slogans, par exemple pour la campagne des 100 fleurs par Huan Xifeng, Pai Hua Jingming, que 100
T'entends, Marcello? Oui, maintenant j'attends.
Parfait. Ok, ça, cela.
Je vous vois pas, mais c'est pas grave.
On va voir si tu nous vois avec le partage d'écran. Ah oui, mais il n'y a pas la caméra.
Ah, c'est là.
Non, je ne sais pas ce qu'il fait. C'était pour partager l'écran.
Merci beaucoup. Et je suis désolé que pour moi, vous fassiez toutes ces... que ça retarde les déroulements.
T'inquiète pas.
Je suis pas très pratique. Je ne vais pas revenir sur l'autre écran. Ah, c'est ça, mon écran, il est plus...
C'est vrai qu'il a fait une
Ok.
Peut-être faire un petit peu sur la barre de fenêtre pour les renvoyer vers le bureau.
Ouais, je vais essayer ça après. Bon, l'écran, c'est bon, c'est ça. Juste que je ne sais pas comment lui il le voit.
C'est ce que tu avais fait tout à l'heure.
J'avais fait ça et après.
En tout cas, je vois bien hein, comme ça.
Ouais, mais nous, c'est tout petit.
Ah, c'est petit, ok.
Oui, c'est petit.
Mais avec un F11, ça marche pas avec un F11, tout simplement. F11 ou FN F11, ça les met un écran entier, non?
Là, nous, on le voit dans la fenêtre.
Ouais, c'est ça.
Mais
on peut
et pas la... On le voit vraiment en grand comme ça. Ce qui fait que moi, j'arrive un peu à distinguer de là où je suis.
Mais c'est plus pratique. Ouais, mais...
Ah,
mais...
À droite.
Non, mais c'était ça, la grande
c'est plein écran, on va y arriver.
Merci beaucoup.
Désolé, mais c'est pas facile. Bon. Je mets plein écran. Désolé.
Voilà, donc le Wenyan, c'est le chinois classique qui est autre chose que le chinois ancien, parce que c'était quand même resté comme une langue de culture. Alors, les principales différences par rapport au chinois moderne, je vais développer chacun des deux points, c'est déjà la densité extraordinaire du texte, et ensuite, ce qui va avoir des conséquences importantes pour le style de programmation, c'est ce que j'appelle l'horizontalité syntaxique. Je vais expliquer aussi ce que j'entends par là. Alors, la haute densité du chinois classique, c'est le fait que les mots soient monosyllabiques, alors qu'en chinois moderne, souvent les mots sont constitués de deux syllabes. Chaque syllabe en chinois est un morphème, donc a une signification. Et donc ça veut dire que vous avez une seule chance de comprendre le sens du mot. Vous n'avez pas une deuxième syllabe pour vous rattraper derrière. Et si vous ne connaissez pas un caractère, vous ne pouvez pas essayer de le deviner à partir du suivant, parce que sinon on va parler d'autre chose. Et donc il y a une énorme densité à cause de ça. À cause de ça, une grande souplesse grammaticale. Le même mot peut être, selon les contextes, un nom, ou bien un verbe, ou un pronom, un adjectif, un adverbe. Si c'est un verbe, il peut être actif, mais il peut aussi être passif. Donc débrouillez-vous pour comprendre. Et si vous voulez savoir la fonction d'un mot, le principal indice que vous avez, c'est l'ordre des mots. Donc si vous voyez quelque chose qui peut être un nom, ou un verbe, ou un adverbe, mettez-le en première position, ce sera probablement un nom dans ce contexte-là. Mais il y a très peu d'indices. Et puis, comme en chinois moderne, il n'y a aucune flexion en chinois classique. Pas de conjugaison, pas de déclinaison. Donc, aucun indice qui permettrait à la tête de quelque chose de deviner si c'est un verbe ou autre.
Pas des accents.
Alors, les accents, c'est la partie prononciation. Oui. L'accent ne détermine pas ni la fonction, c'est pas une flexion. L'accent, c'est une fonction de différenciation, même titre que si tu mets un P ou un T dans un.
Donc, que ce soit verbe ou pronom, prononcer la même analyse.
Il peut arriver en chinois moderne qu'il y ait des mots qui s'écrivent de la même façon et qui ont plusieurs prononciations différentes. Et il se peut que ça corresponde aussi avec des différences de fonction, mais c'est pas généralement le cas. Ensuite, il n'y a pas de ponctuation en chinois classique. Alors la ponctuation, c'est en fait plutôt une pratique de lecteur. Donc c'est en lisant les manuscrits que les gens pouvaient rajouter un petit rond pour indiquer le point, donc l'endroit où ça se terminait. Mais on ne publiait pas les textes avec la ponctuation. Et puis en plus de ça, ils ont encouragé la concision. Plus c'est court, mieux c'est. Donc, un peu comme, pareil, quand on voit des inscriptions en latin, si vous avez fait du latin, généralement, on les met de façon très, très concise, ce qui fait que on n'est pas chez Cicéron. Souvent, on se dit qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là. Je connais tous les mots, mais je vois pas ce qu'ils ont voulu dire. Donc, ça n'aide pas. Le fait qu'ils encouragent la concision, ça fait que pour comprendre un texte, il y a une grande dépendance par rapport au contexte. Et souvent, on s'arrache les cheveux, y compris les spécialistes s'arrachent les cheveux sur un bout de phrase, parce que c'est tellement polysémique que c'est compliqué de trancher. Ensuite, je vous parlais d'horizontalité syntaxique. Alors, c'est si vous imaginez une phrase avec des propositions subordonnées, par exemple. Je vois ça comme un arbre. Vous dites « le lapin qui saute sur la table est mignon ». Le « qui saute sur la table », on peut voir ça comme une arborescence qui descend de lapin. Et puis ensuite, qui descend sur la table, qui se trouve ici à ma gauche, etc. On peut redescendre encore dans l'arborescence. Sauf que en chinois, les moyens d'indiquer qu'on est sorti d'un sous-arbre sont non ambigus, ce qui fait qu'on ne sait pas si on sort d'un arbre ou de deux arbres. Et donc, généralement, on n'encourage pas à faire des phrases avec beaucoup d'incises comme ça à l'intérieur, beaucoup de subordonnées. Mais ce qu'on va faire, c'est couper l'arbre qui descend, on le met après, et puis on fait un système de pronoms pour dire « tu te rappelles le lapin dont je parlais tout à l'heure ?» Et là, il saute sur la table. Donc, il y a un faible niveau de récursion. Et à la place, on utilise l'anaphore avec des pronoms. « Je », « je », pour ceux qui font du chinois moderne, c'est pas le même « je » qu'en chinois moderne. Aujourd'hui, ça veut dire « être » pour l'attribut du sujet. Et à cette époque-là, c'est un pronom. « Tif » ou « Donc là encore, forte dépendance sémantique par rapport au contexte. Et donc, à partir de ça, il y a des gens qui se sont dit « Et si on faisait un langage de programmation ?» Et c'est un vrai langage de programmation qui est très malin. Ils ont vraiment mis tout ce dont on a besoin. Il y a un site web qui est très bien fait. C'est un logiciel libre, on trouve le code source. On a de la documentation, beaucoup d'exemples. Il y a toute une communauté apparemment. Des bibliothèques qui sont assez riches. Et puis, ils ont mis des noms, des blagues dans les noms des bibliothèques. Alors, Swanting, c'est littéralement le classique des mathématiques. Il y a plein de traités de mathématiques qui s'appellent Swanting dedans. Joey, c'est pour la bibliothèque random, bibliothèque d'aléatoire. Et le Joey, c'est le nom du Yiting. C'est comme ça que les Chinois appellent le Yiting, le traité de divination. Et Yiting, c'est pour les tableaux. Waiting, pour les classique des positions, c'est pour les bits. Il y a en ligne un environnement développé intégré qui est très bon. Un gestionnaire de paquets qu'ils ont appelé pavillon de la gloire littéraire. C'est un des pavillons du la site interdite, qui était la bibliothèque. Et ça se compile vers JavaScript et retour, vers Python et vers Ruby aussi. Et c'est un langage qui est complet au sens de Turing, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel langage, on peut aussi le faire. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, mais on peut le faire aussi là-dedans. La syntaxe, on peut la trouver décrite. On va pas la lire. Elle existe quelque part. Ça, c'est la documentation. Alors, je pense que ce livre n'existe pas physiquement. Je pense que c'est une image qui a été créée de toutes pièces. Mais il y a vraiment la documentation qui se présente comme ça. Ça se lit par colonne de droite à gauche. Et là, on a un bout de code ici à gauche. Vous voyez du rouge et du bleu et tout ça. Avec, là, vous voyez, même si vous parlez pas chez nos classiques tous les jours, vous voyez l'indentation. Donc déjà, vous comprenez la structure, même si c'est du chinois, littéralement.
La couleur a un sens
Non, elle a pas de sens dans le langage, c'est de la coloration syntaxique.
D'accord.
Voilà, ça c'est le développement, l'environnement de développement intégré, donc qui est très bien. On écrit le code là-haut. En dessous, on peut faire une visualisation sous forme d'image comme ça. Alors là, bon, c'est pas beau, il n'y a pas d'indentation. En haut à droite, on a la traduction en JavaScript. Et puis à gauche, on a nos propres programmes. Et puis ensuite, toute une base de données d'exemples qu'on peut consulter. Voilà, ça c'est un programme. Alors à mon avis, il se passe beaucoup de choses louches dans le... Tout à l'heure, Marcello parlait de l'importation de bibliothèques où il se passe beaucoup de choses. Là, typiquement, un tout petit code comme ça pour faire le calcul de l'ensemble de Mandelbrot qu'on voit ici, il doit y avoir un loup. Donc, c'est sûrement dans les bibliothèques qui sont chargées au début qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, le Wenyen, est-ce que c'est du
Wenyen? Il y a une sorte de marge en rouge au-dessus. Qu'est-ce que c'est?
Commentaire, non?
Alors, les commentaires, ils sont mis à l'intérieur. Enfin, c'est un peu flou. Je ne sais pas. C'est peut-être un commentaire, mais sur. Oui, c'est ça. C'est un commentaire. Parce que alors ça, c'est un code que moi j'ai écrit, mais je ne sais pas comment ils font l'indentation. Et donc ça, c'est bien le commentaire. Là, c'est un algorithme tiré des 9 chapitres. Enfin, c'est la réécriture de l'algorithme du principe de maths. Et là, ici, j'ai mis le code, le texte des 9 chapitres. Pour qu'on puisse comparer, c'est vraiment beaucoup plus court dans le livre. voilà, alors, je regarde là. Oui, je vais me dépêcher. Alors ce langage, si vous voulez, je pourrais vous donner le diaporama si vous voulez regarder tranquillement. Alors déjà, les espaces blancs n'ont pas de signification, donc les couleurs non plus, et la ponctuation non plus. Donc on peut tout écrire sans ponctuation, mais c'est illisible. Et là, c'est le même code, sauf que là, on comprend la structure au premier coup d'œil, même si on parle pas chinois. Donc là, c'est un code pour faire une table de multiplication. Ça, c'est la sortie. Et la sortie est faite sous le format habituel des tables de multiplication dans les traités de maths chinoises. Et ensuite, alors là, bon, je vais faire défiler très vite toutes les diapos qu'il y a après. L'idée, c'est simplement de vous montrer que ça a l'air exotique vu comme ça, mais qu'en vrai, quand on traduit en JavaScript en dessous, on s'aperçoit que c'est à peu près la même chose. Donc là, vous avez une ligne, donc WY, c'est pour dire que c'est Wenyen, donc c'est le langage. TR, c'est une transcription. Donc là, j'ai traduit en anglais parce qu'on est habitué à avoir de la programmation en anglais. Et en dessous, en JavaScript,
la traduction en JavaScript.
Et on va voir que très souvent, pour toutes les premières diapositives que je vais vous mettre, il se passe la même chose. Alors là, pour écrire 1, 2, 3 en chinois, hein, c'est 1 trait, 2 traits, 3 traits. Et 0, c'est ce que vous voyez en dessous. La partie du bas, c'est phonétique, c'est ligne, c'est la façon dont ça se prononce. Et en haut, c'est la pluie, parce que c'est la rosée. C'est presque rien. Voilà, donc ce qu'on trouve, les caractères, c'est tous les caractères habituels du chinois pour les nombres, pour les décimales. Pour les booléens, ils ont pris le yin et le yang. On peut faire des tableaux, on peut faire des objets. Alors, je ne vais pas vous donner les détails, parce que tout ça, c'est pas très exotique. Ça, c'est assignation de variables. Son affichage, itération, on peut faire des tests booléens. Mais vous voyez, là aussi, quand on traduit en JavaScript, on s'aperçoit que ça fait pas une grosse différence. Ça ne nous fait pas penser différemment le booléen. C'est pas parce qu'on appelle ça yin et yang que ça va être différent. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment parallèle. Pour la note, on a une notation différente qui n'est pas un fixe pour l'addition et la soustraction, mais ça ne change rien fondamentalement. Tout ça, ça ne change pas. Ça change pas. Là, vous voyez, quand on traduit en JavaScript, si 3 est supérieur à 2, on a vraiment littéralement, on voit, comme tout à l'heure en Scratch, on voit qu'en fait, ça change pas fondamentalement la structure. Donc tout ça, pour l'instant, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Et là, on va commencer à voir ce qui change un peu. Alors, je sais pas combien de temps je vais maintenant, parce que, normalement, c'était, ça finissait à 16h et la pause commençait à 16h. Je peux prendre encore 5 minutes?
Oui,
Alors, il y a des pronoms, et les pronoms, ça permet de renvoyer à la dernière chose qu'on a faite. Donc, par exemple, on fait 1 plus 2. Add one using two, on fait 1 plus 2. Et ensuite, on peut dire multiply that, et that, ça va renvoyer au dernier résultat qu'on a eu, donc là c'était 1 plus 2, au moyen de 3. Et donc, c'est équivalent à dire 1 plus 2, fermez la parenthèse, fois 3. Sauf que ça, ça marche bien pour toutes les formules dans lesquelles toutes les parenthèses ouvrantes sont entassées à gauche. Comme celle-ci. Donc, A plus B, fermez la parenthèse, plus C. Bien, A plus C, fermer la parenthèse, fois C, fermer la parenthèse, plus D, ce genre de choses. Mais on peut pas faire ce genre de choses, ce qu'on a après. A plus, ouvrez la parenthèse, B plus C. On peut pas le faire littéralement avec un outil comme ça. C'est comme avec les calculatrices au collège. Sur une calculatrice au collège, vous pouvez faire A plus B et ensuite vous ajoutez C, mais vous pouvez pas faire A plus et puis ensuite B plus C. Parce que quand vous mettez le B, vous devez effacer le A et ensuite vous devez effacer le B. Heureusement, ils ont un mécanisme qui permet d'éviter ça. Bon, ça, je vais pas vous en parler. C'est l'usage des pronoms. Voilà. Ça, c'est le mécanisme qui permet de faire des imbrications arbitrairement compliquées. Alors, c'est un mécanisme de pile. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que vous voyez tout à la fin ici, var f égale e de a virgule d de bc. Et alors, pour faire ça, on va faire un mécanisme de pile, donc comme avec une pile d'assiettes. On va dire, on utilise le foo, that, donc ce caractère-là, qui veut dire ce quelque chose-là. Et on va dire ce A dont on avait parlé. Tu vois le B dont on avait parlé. Et hop, on le pose par-dessus. Tu vois le C dont on avait parlé. Comme tout à l'heure, je disais, tu vois le lapin. Eh ben, il saute. Donc là, on les empile. Eh ben, tu en prends deux. Donc là, on prend les deux derniers. Donc c'est le B et le C. Et tu leur appliques D. Donc là, on retire les assiettes B et C, et à la place, on met l'assiette qui vaut D de BC. Ensuite, tu en prends deux. Là, mon assiette, j'ai le A et j'ai le D de BC. Eh ben, tu en reprends deux, et à la place, tu mets E. Donc maintenant, on a E de A virgule D de BC. Eh ben, tout ça, ce que tu as, tu vas l'appeler F. Et c'est comme ça qu'on fait une formule compliquée comme ça. Voilà, donc là, c'est la même chose avec les histoires d'assiettes, sauf que j'ai noté d'une autre façon, et on retrouve la notation polonaise, parce que c'est la notation polonaise qu'on fait, on met les opérants inversés, parce qu'on donne les opérantes, ensuite on remplace les opérantes concernées par l'opération qui les concerne, et cette structure-là, qui est déterminée en bonne partie par les structures du chinois classique, je vous ai dit, là avec le lapin, je vous ai dit qu'on descendait pas beaucoup dans les imbrications. Donc, les systèmes avec beaucoup de parenthèses, ça marche pas bien, chinois classique. Parce que pour faire imbriquer des parenthèses, c'est l'imbrication. Eh bien, à la place, ils ont utilisé le système de pronoms, comme quand je vous disais, tu vois le lapin tout à l'heure, il saute. Et alors, ce système-là, je n'ai pas vu dans d'autres langages que je connaissais. Alors, j'en ai parlé à Emmanuel Chaillou, qui m'a dit, ah, en PostScript, il y a quelque chose comme ça. Il m'a donné un autre exemple de langage. Mais donc, c'est quand même...
Des langages à pair, en fait.
Oui. Et donc, ils ont fait ça parce qu'ils étaient contraints par la syntaxe du chinois classique. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est idiomatique, qui était dicté par, qui est inspiré par, par une certaine langue. Bon, là, c'est un autre exemple plus complexe pour faire la formule var j égale i de f de, etc. Mais le fonctionnement est là. Voilà. Donc, pour conclure, très rapidement, le Wenyan, donc ce langage de programmation, c'est bien du Wenyan, la langue Wenyan, parce que si on avait donné ça à un vrai locuteur du chinois classique, il aurait dit c'est pas fin fin comme expression, c'est pas très très beau, mais c'est grammaticalement correct. C'est lourdingue, mais de toute façon, les textes de programmation, c'est toujours lourdingue. Et donc, ben, voilà, il utilise vraiment les structures fondamentales du chinois classique. Est-ce que c'est de l'anglais déguisé? Non. Là, on a vraiment quelque chose qui est idiomatique par rapport à la langue chinoise classique, même s'il y a beaucoup de structures qui sont équivalentes à la même chose dite en anglais, il y a quand même au moins une ou deux structures qui sont adaptées vraiment à la langue. Et pour donc dernière diapo, l'expressivité des langages de programmation, donc je vous disais, vient en partie des langues, du fait qu'on les connaisse, et les langues offrent un super réservoir pour trouver d'autres façons de penser la programmation, mais des façons qui changent un petit peu plutôt que d'exprimer toujours d'une seule façon, et c'est une occasion qui malheureusement est trop peu saisie. On va être plus foufou comme les Allemands.
Merci.
Merci. Cet exposé très intéressant, le foufou allemand, un ennemi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui.
Alors, c'est ouais, une question, mais c'est plus parce que ça me faisait penser aussi à... Il y a des langages qui existent comme informes, je ne sais pas si tu connais, ou qui sont des langages qui sont écrits en langue naturelle. On écrit en anglais directement, on écrit en français directement. Mais en fait, le langage lui-même est compilé en informe et c'est aussi du literary programming, c'est-à-dire que c'est à la fois le texte qui est aussi le programme. Et c'est écrit complètement en langue naturelle. Je me demandais si, justement, voilà, t'avais regardé aussi ces aspects-là, et le côté écriture de code source, mais en langue naturelle.
Alors ça, non, je ne connais pas. Et après, j'espère qu'il y a un théorème de lecture unique pour ces langages-là. Parce que si tu dis en anglais « the little girl's ball », est-ce que c'est la balle de la petite fille ou la petite balle de la fille? Donc, il n'y a pas de lecture unique en anglais. Donc, s'ils le font, j'espère qu'ils ont moyen de lever ça.
Je sais que c'est bien formé. Justement, il y a des gens qui voulaient l'écrire en français, mais oui. Comme c'était écrit qu'en anglais, en langue naturelle, il y avait toute cette question de idiomes et comment on pouvait traduire dans une autre langue en utilisant une forme de langage.
D'accord. Entre les deux, il y a tout ce qui est des langages contrôlés, comme on dit, hein, qui sont des langages naturels, des sous-ensemble des langages naturels faits pour être traitables de l'ordinateur. Je crois qu'Informe est un peu dans cette catégorie, je ne l'ai pas vraiment utilisé.
Dans ce cas-là, ils peuvent avoir la lecture unique.
Oui, c'est la lecture unique, oui.
Mais ça devient un langage formel.
Ça devient un langage formel, mais au moins pour les lecteurs, ça ne pose pas de problème, parce que c'est une forme d'anglais.
Oui, mais il y a Isabelle, le langage Isabelle, qui est donc c'est à peu près la même chose que Clock, sauf que ça se lit... c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis le langage catalan aussi, qui est fait pour les juristes et où ils pensent comme un juriste, parce que dans les textes de droit, souvent le cas par défaut est donné en premier. En programmation, souvent on dit if then else et le else vient à la fin. Alors que les juristes, ils commencent par le else et ensuite ils disent sauf si vraiment il se passe ça, dans ce cas-là on fait ça. Et donc le langage catalan, il change la structure comme ça. Pour qu'une ou un juriste puisse comprendre le texte et puisse même lire le texte de loi et le code des impôts formalisé en catalan en vérifiant ligne à ligne sur la correspondance. Pour la partie informelle de la vérification.
En fait, je pense à autre chose dans l'autre sens un peu. Smalltalk. Ça prend rien de syntaxe anglais. C'est les mots anglais. On pourrait les remplacer un par un pour les français, chinois, ce qu'on veut. Parce que les syntaxes de Smalltalk, il n'y a pas d'if-then-else. Hein. Et du coup, Mais ça me vient maintenant, on a tendance à que j'ai souvent entendu que ce moteur, je n'arrive pas à me retrouver. Et je me demande si c'est peut-être lié à ce fait-là qu'il faut, il y a vraiment, il y a moins de références au langage naturel. Si quelqu'un réfléchit à ça.
Mais tu n'arrives pas à te retrouver, peut-être, tu ne comprends pas la structure du corps.
Ouais, il y a des gens qui, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Qu'ils ont tenté de se mettre dans ce montant, qu'ils ont eu du mal à. C'est pas un langage pour eux.
Alors, si parfois il y a l'originalité,
le fait bah oui, parce que c'est toujours la question.
Si on regarde du Perl ou n'importe ou Java ou n'importe quel langage qui reprend les accolades de C, etc., on est très vite chez soi parce qu'on connaît le C. Et ouais, si c'est un langage qui prend d'autres options, Python, ça s'inspire beaucoup du pseudocode qu'on écrit sur le papier. Donc peut-être que c'est parce que ça ressemble à rien de connu.
C'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire toi tu viens d'un monde de lycéen, et pour le coup, enfin je vois bien que quand on enseigne aux étudiants, on en parlait un peu, il y a ce truc de quand ils ont un bagage mathématique pour leur monde des langages fonctionnels, alors les langages fonctionnels leur paraît naturel, ils font du langage fonctionnel. Ensuite tu lui montres du procédural et l'étudiant se dit c'est là qu'on comprend pas. Et ensuite ils ont ça quand. Et donc, du coup, et par contre, ceux qui ont un parcours en informatique plus traditionnel, qui sont tapés des langages procéduraux comme vous, on a tendance à dire, oulala, le fonctionnel, on va pas leur montrer parce que ça a l'air compliqué. Si on fait pour nous, c'est culturellement compliqué. C'est juste parce qu'on a été exposé à une façon, à un paradigme, et qu'on a du mal à s'en détacher, en fait. Et je pense que, lorsque sur le tour, c'est quand même un truc.
C'est un peu ton point de départ, hein, parce que les liens à ce qu'on connaît déjà, ça peut être la langue naturelle, ou ça peut être la connaissance mathématique.
Quand tu viens, de l'objet, quand tu viens du procédural, tu me doutes, c'est pas la langue qui est connue pour sa légitimité.
C'est comment ton débat? Est-ce que... Elle est là, d'accord, très bien. Vas-y.
Si je peux juste dans ce sens, dans le même sens de ce qui vient d'être dit, je me pose la question si fondamentalement la logique qui sous-tend à la totalité en réalité des langages de programmation est fondamentalement une logique de dérivation aristotélicienne. Donc c'est une logique qui est quand même héritière d'une langue en particulier, les Grecs anciens, et donc toute la formalisation est là, peu importe hein, qu'on soit dans des langages procéduraux ou fonctionnels, ça reste le même hein, la logique formelle à la base a une origine linguistique. Et je me demande si on pourrait poser des questions encore plus radicales, c'est-à-dire dire est-ce que on pourrait imaginer des formalisations autres qui serait du coup non différente de la logique de premier et deuxième ordre qu'on connaît. C'est-à-dire, est-ce que peut-être même les structures même de la logique computationnelle pourraient être mises en question. Et à mon avis, il y aurait des choses à travailler là-dedans. C'est-à-dire que on est encore dans les programmes d'Hilbert et dans une réduction à un certain type de logique par rapport aux approches computationnelles. Et je me demande, vraiment, présentation magnifique, Baptiste, merci, j'étais fasciné. Je me demande si on pourrait aller encore plus loin et dire que peut-être certaines langues très différentes, donc non indo-européennes typiquement, ont dedans des structures logiques, de logiques autres par rapport à la logique aristotélicienne, disons.
Alors c'est possible, mais moi je suis moins pessimiste que toi sur la question de savoir si on n'est pas resté un peu trop grec, parce que il y a quand même un effort d'analyse qui a été fait. Évidemment, on ne sait pas si on l'a mené au maximum, mais par exemple en grec, alors il y a un article de Benveniste, un article un peu célèbre, où il parle de l'ambiguïté en grec du mot être, qui peut désigner l'identité. C'est pour dire que je suis la même chose que Baptiste Mélès. L'appartenance, l'inclusion, etc. Et le fait de posséder une propriété, etc. Et en fait, ces sens-là ont été distingués par les logiciens comme Peano. Qui a distingué, par exemple, l'appartenance et l'inclusion. Donc, on a pu faire un travail en allant contre notre atavisme grec
Oui, alors, mais même Aristote le faisait ça. Justement, la logique aristotélicienne est déjà dans les déinterprétations et il est dans les catégories. Il fait ça hein, quand il commence à dire être, c'est dit de plusieurs manières. Donc, mais reste, je pense à des structures encore plus profondes. Mais je sais pas parce que je suis pas assez cultivé d'un point de vue linguistique, mais fondamentalement justement les structures comme if then, les structures de base des syllogismes et de la logique mathématique telle qu'elle a été pratiquée au XXe siècle, donc de Turing etc. Bah, restent les mêmes structures. Donc là, ce que tu nous montrais aussi. Il y a des différences, bien sûr, dans des approches algorithmiques, mais qui restent quand même des approches de évidemment, hein, comme toute approche computationnelle, qui reste dans cette logique-là. Donc, je me demande si il y a des choses vraiment qu'on n'a pas pensées.
Oui, peut-être. C'est parce que là, effectivement, ils mettaient yin et yang, mais c'était vraiment de la logique booléenne classique qu'il y avait derrière. Donc là, ils n'ont pas exploité cette. Ah, une possibilité d'exotisme.
Je sais qu'il existe une variable floue du problème. Pas de raisonnement logique floue en problème. Ah, oui. Déjà un début de. Bon, c'est pas fini d'une simple.
Ah, oui. Mais c'est... Ah, oui. Oui, pour ce que tu disais pour Aristote et le grec, c'est parce que, alors, il y a la, justement pour les catégories aristotéliciennes, l'article de Benveniste tend à dire que les catégories seraient en fait le calque de la langue grecque. Et ce qu'il dit, c'est. Les cinq fonctions du verbe être en grec, dans la langue ewe en Afrique, il se trouve que c'est cinq mots différents. Donc, un locuteur de la langue ewe n'aurait pas fait les mêmes confusions conceptuelles, entre guillemets, qu'a fait Aristote. Mais on peut sûrement, explorer d'autres façons de raisonner ou penser la programmation en exploitant d'autres possibilités.
J'ai une question, du coup, sur le langage de programmation dérivé du chinois. Et c'est, du coup, sur cette idée de réutiliser différentes manières de langue, etc. En fait, quand on programme, cette logique if, then, etc., toutes ces structures, en fait, dès qu'on programme, on va de suite créer soit des structures, soit des procédures, des fonctions, etc. Et ça, c'est pas du tout des choses qui sont dans la langue, en fait. Dans la langue, je crée pas un objet abstrait dans lequel je vais appliquer des arguments. Et du coup, en fait, forcément, il faut rajouter des choses en plus pour le spécifier. Et donc, du coup, un lecteur du chinois classique va pas pouvoir comprendre ce que je définis, puisque du coup, ça n'existe pas en chinois classique, cette abstraction de définir des procédures. C'est là où j'ai raté, en fait, quelque chose dans mon...
Alors, il y a quand même beaucoup de choses. C'est vraiment un texte, si tu prends un code, tu as des structures qui disent vraiment... j'ai un nombre, il s'appelle comme ça, sa valeur, c'est ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire en chinois, dans la langue de tous les jours.
Oui, mais du coup, quand on va programmer, on va dire, par exemple, pour Mandelbrot, par exemple, ça va être du coup, c'est une procédure qui fait telle opération, et on va la réappliquer récursivement. Ben, ça, rien que la récursion, déjà, en langue naturelle, c'est assez difficile à...
Ça se dit quoi, quand on dit et ainsi de suite. Là, à chaque fois qu'il y a des, il n'y en a pas dans celui-là. L'état, la façon chinoise de dire et ainsi de suite.
D'accord.
Donc c'est, j'ai l'impression que c'est, tu pourrais traduire ce code en français et ça se comprendrait assez bien. D'autant plus que ça n'utilise pas, même de façon implicite, l'indentation par exemple. Donc c'est vraiment fait pour être compris, prononcé à l'oral. Et non dans l'aigu. Sauf si j'ai pas bien compris.
Non, c'est moi qui dois réfléchir.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un texte en langue naturelle.
Mais je pense que l'abstraction existe déjà en un même endroit quand on définit un concept complexe en milieu du nom. Si on donne un nom pour définir un concept complexe, ça va être comment c'est une abstraction. Non?
Je sais pas si on applique des abstractions là, je sais pas.
Pour moi, c'est l'équivalent. C'était surprenant.
Oui, oui. Bon, enfin,
pour moi, c'est l'équivalent à définir un concept complexe avec un seul mot.
Il y a toujours une distance entre le.
Il y a une distance, mais.
Oui, c'est ça. Ah bon, bref.
qui est étonnant, c'est qu'on réfléchit, quand on programme, on pense à plein d'abstractions qui peuvent avoir un fil assez grand. Et finalement, on arrive à résumer tout ça avec de l'anglais et puis quelques mots. On a l'impression qu'on réduit cette complexité pour arriver à... Est-ce que ça pose la question d'effectivement, est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver quelque chose qui rend mieux ce qu'on a dans la tête de façon écrite, quoi. C'est comme ça que je comprends le fait qu'on peut trouver d'autres modes d'expressivité qui seraient peut-être plus compatibles avec la façon dont on développe mentalement. Et... C'est ça.
Oui, alors, moi, comme je ne suis pas psychologue ni sociologue, tout ça, j'en sais rien de comment on pense. Donc, je préfère regarder comment les gens parlent. Et comme ça, au moins, on peut dire, bah si, c'est écrit. Là, il y a ça. Et je trouve ça, peut-être que les gens, il y a plein de gens, sûrement, qui écrivent de la même façon, mais qui pensent différemment. Il peut y avoir des procédés différemment. On peut avoir, même pour les nombres, parfois, on n'a pas forcément les mêmes représentations. Mais à la fin, on se met d'accord sur, enfin, tout le monde écrit de la même façon. Donc, alors, une phrase que j'aime bien, c'est Claude Agech qui dit ça, le linguiste pour les langues naturelles. Alors, j'ai lu la formulation exacte. Mais il dit, les langues ne se distinguent pas parce qu'elles nous forcent à penser, ou parce qu'elles nous permettent de penser, mais parce qu'elles nous forcent à dire. Et donc, je trouve que c'est assez pertinent pour les langages à programmation. De se dire, dans ce langage, peut-être que dans un autre langage, je ne serais pas obligé de faire un choix entre deux façons d'exprimer quelque chose, mais dans ce langage, non. Comme si je parle espagnol, et que je veux dire être, il faut que je me dise, alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Selon que c'est une propriété durable ou pas, essentielle, ouais, la chose. C'est des questions qu'on ne se pose pas en français, mais qu'on doit se poser quand on parle en espagnol. Donc, je dirais que c'est la même chose que le langage.
Ce que tu viens de dire, là, c'est intéressant. Enfin, moi, je comprends. Tu énonces quelque chose et ton exemple dit l'inverse.
Ah bon?
Ouais, enfin, c'est-à-dire, en gros, tu dis ce que ça nous force à dire. Oui. Mais non, là, on a l'opportunité de faire une distinction. C'est une opportunité de faire par la langue.
Oui, mais il faut la faire.
Je ne
peux pas rester neutre.
Mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est du coup, typiquement, je trouve que les langages fonctionnels, typiquement, ça va t'offrir des opportunités en termes de penser ton problème, mais d'un autre côté, il y a des gens qui vont dire, bah non, en fait, moi, je comprends pas cette histoire de langage, je comprends pas la notion de localonymie, et ainsi de suite. Et pareil, je pensais, alors, du coup, je voulais poser la question sur les APL, là où, en fait, finalement, il y a que des symboles, et tu peux faire des trucs très, très puissants en quelques symboles. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité au point de vue de la culture, parce que, voilà, il n'y a pas de mots, et on est tous obligés d'apprendre les symboles, mais on voit bien que c'est des paradigmes qui prennent pas. Alors que, ostensible, enfin, j'ai jamais entendu personne me dire, OK, c'est pas puissant, tout le monde reconnaît que c'est puissant, mais c'est cryptique.
Oui.
Est-ce que finalement, c'est pas la limite des esprits qui inventent les langages, c'est la limite, enfin, notre capacité en tant que programmeur, peut-être, à mobiliser ensuite des concepts de manière intelligente, quoi.
Oui. Mais c'est vrai que pour la programmation, on peut choisir le langage dans lequel on s'exprime. Ça, c'est une différence avec les langues naturelles. Et ensuite, on peut choisir le langage qui va nous forcer à exprimer telle ou telle chose. Par exemple, qui va nous forcer à nous exprimer au niveau des pointeurs ou pas. C'est une liberté que le fait que ce soit des langages artificiels, on puisse prendre en compte les pointeurs. Et oui, sur les langages indicibles, il y a aussi le codage de Gödel. Dans son article, il dit on pourrait représenter n'importe quelle formule par un nombre, mais et donc dans l'absolu, ça marche. Personne n'a réalisé de faire ça. Parce que très vite, on se retrouve avec.
Il y a des guerres, c'est vrai qu'il y a les guerres de chapelle entre producteurs de langages X ou Y, et de savoir lequel est le plus accessible. Lequel a le plus de paradigmes, c'est vrai que ça traverse et du coup, il y a ce côté sociétal où effectivement des langages vont rester inconnus, puis d'autres vont émerger comme Python et finalement, tout ça, un temps, puis peut-être décliné plus tard, mais c'est vrai que ça. Est-ce que l'anglais, du coup, est-ce que l'anglais s'est imposé et est-ce qu'un jour ça changera? Est-ce qu'on trouvera quelque chose de plus efficient?
Ou ça peut être des mutations démographiques, par exemple la croissance démographique en Afrique qui peut faire que le français l'emporte. C'est une chose que j'ai entendu parler. Donc ça peut être des choses comme ça, ou bien une domination économique d'autres locuteurs.
Et en fait, c'est intéressant de regarder, je ne sais pas si tu as entendu parler d'un langage qui s'appelle EDI, je dirais que c'est assez récent, et c'est fait dans le but explicite de rendre l'accès à la programmation plus facile à des élèves de langues d'origine différente. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de rendre plus facile à apprendre. Donc là, il y a, c'est un peu comme Scratch, donc c'est adapté à plusieurs langues, je ne sais pas plus que ça. Mais le but a été explicitement de la facilité de l'apprentissage, et apparemment, ça a été vérifié, testé. Ça peut être intéressant de regarder ça, mais c'est assez récent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de recul sur le projet.
Et puis, c'est vrai qu'il y a des histoires de communauté. Pendant longtemps, les physiciens utilisaient Fortran, et c'était les derniers à utiliser Fortran. Et puis finalement, parce que leur bibliothèque...
Il ne faut pas parler du passé. Hein.
Parce que je croyais justement que maintenant, ils avaient converti leur bibliothèque et donc ils étaient passés à Python.
C'est pas si simple ça.
Non, mais Fortran est toujours compilé par les packages R.
Ouais. Ah oui.
Mais tu avais, par exemple, quelqu'un qui faisait du HPC, il disait bientôt les LLM transformer notre base de code de Fortran.
C'est le rêve, c'est le rêve.
Parce qu'il est le rêve.
Qui va débugger ?
Voilà. Non, non, Fortran est encore bien présent pour plein de raisons.
Parce que Fortran,
Ah, ben c'est non. D'ailleurs, une bonne installation Python contient du code à force. Ouais.
Toute la partie de l'hybride, c'est du Fortran.
Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est du Fortran. Ouais.
Ouais. Et je ne suis pas spécialiste de Smalltalk, mais par exemple, dans les années 80, ça a vraiment été un choc de l'arrivée de l'objet et la possibilité de capturer. Ça, est-ce que tu regardes un petit peu aussi, par exemple, la programmation orientée objet, est-ce que c'est quelque chose que tu as.
Oui, pour les structures syntaxiques qui sont utilisées, oui.
Comme par exemple une similarité aussi.
Pas pour la morphologie compositionnelle, oui. Donc là, l'exemple de bus.station, par exemple, on retrouve la structure germanique, où le déterminant précède le déterminant.
Ce qu'il n'y a pas dans ce module, d'ailleurs, il n'y a pas d'accès aux éléments.
Je parlais à
des gens qui ont essayé d'apprendre le Smalltalk, mais que ce qui les a bloqués, c'est que ça ne leur paraît pas un langage normal. Mais évidemment, ils n'ont pas pu l'exprimer par rapport à quoi c'est pas
normal. Ouais. C'est ça qui serait très intéressant.
Ah oui, mais il faudrait analyser en détail. Hein. C'est pas banal.
Un petit peu de retard, je sais pas si y a d'autres questions.